Bonjour Élise, bonjour à tous. Vers un retour de l'aide à Gaza, Israël réautorise l'entrée partielle de marchandises privées. Pas suffisant, selon Médecins du Monde, vous l'entendrez. L'étau se resserre sur Jair Bolsonaro, l'ancien président brésilien d'extrême droite, est désormais assigné à résidence en cause des messages publiés sur le réseau social X. Il est soupçonné d'avoir été un espion chinois, et ce pendant des années. En Allemagne, ouverture du procès d'un ancien collaborateur d'eurodéputé. Et puis enfin, François Bayrou lance sa chaîne YouTube et son propre podcast. Le Premier ministre veut expliquer le budget directement aux Français. Alors que la population est en proie à la famine, Israël annonce autoriser à nouveau l'entrée partielle de marchandises privées dans la bande de Gaza. Décision annoncée ce matin par le ministère de Défense israélien. Les explications de Michel Paul, correspondant à RFI à Jérusalem pour France Culture.
Les détails sont encore flous. Ce que l'on sait à ce stade, c'est qu'un nombre limité de commerçants locaux ont été approuvés par les autorités israéliennes et qu'ils pourront acquérir des produits alimentaires de base, des aliments pour bébés, des fruits et des légumes, également des produits d'hygiène. Alors ces produits seront achetés à l'extérieur du territoire palestinien et revendus aux Gazaouis. Les transactions, précisons encore, se feront exclusivement à l'aide de cartes de crédit. Selon le ministère israélien de la Défense, l'objectif est d'augmenter l'aide entrant dans l'enclave palestinienne tout en réduisant l'implication de l'ONU et des organisations internationales. Israël veut également surtout contourner le Hamas qu'il accuse de piller les convois de camions à Gaza. Visiblement, les responsables israéliens, sous l'impulsion des États-Unis, sont désireux de montrer leurs efforts et ils soulignent que la voie terrestre pour acheminer l'aide humanitaire est nettement plus efficace que les parachutages de ces derniers jours. Mais il faut le souligner, c'est une mesure qui intervient alors que selon le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahou, cité par les médias ici, Israël s'apprête à occuper la totalité de la bande de Gaza.
Et cette annonce de réouverture partielle de marchandises privées ne rassure pas vraiment les associations. C'est le cas de l'ONG Médecins du Monde et son président Jean-François Corti.
On voit que cette annonce, elle ne correspond pas du tout à l'urgence médicale, à la famine en cours et aux mortalités des civils. Donc il s'agit d'une annonce des autorités israéliennes qui met en avant une manière de privatiser l'aide, ce qu'on a déjà vu avec l'entrée de la Fondation humanitaire pour Gaza, une organisation américaine qui est un opérateur d'État proche des autorités israéliennes. C'est une manière d'écarter, en fait, il faut bien comprendre cela, les organisations internationales type Nations Unies, type ONG comme Médecins du Monde, Médecins sans frontières et d'autres. Donc c'est se priver d'acteurs qui peuvent inverser une tendance notamment de famine et malnutrition. Donc il y a bien une volonté de ne pas répondre aux besoins de l'urgence médicale. Et c'est surtout écarter des acteurs qui sont indépendants, impartiaux et qui sont en capacité aussi de pouvoir dénoncer en étant témoins des exactions qui aujourd'hui relèvent de crimes de masse, de crimes contre l'humanité à Gaza. Donc c'est de créer les conditions d'avoir moins de témoins pour continuer à mener à bien une politique aujourd'hui qui probablement relève d'une volonté de recoloniser Gaza.
Jean-François Corti, interrogé par Solène Delarquier. Cette décision de réouverture partielle de l'aide à Gaza tombe alors qu'aujourd'hui à New York se tient une réunion d'urgence de l'ONU, une réunion demandée par Israël sur le sort des otages retenus à Gaza. Des messages sur Internet qui n'auraient pas dû exister. Un juge de la Cour suprême du Brésil a ordonné hier l'assignation à résidence de l'ex-président Jair Bolsonaro. Il devra désormais rester chez lui à Brasilia en attendant son procès pour tentative de coup d'État. Selon le magistrat, il n'a en effet pas respecté son interdiction de s'exprimer sur les réseaux sociaux. Les explications, Valérie Crova.
Aucune visite à l'exception de ses avocats ou dérogation de la Cour suprême et pas de téléphone portable. C'est la sanction imposée par le juge Moraes, celui-là même qui est en charge du futur procès de Jair Bolsonaro. Le magistrat reproche à l'ancien président d'avoir réagi depuis son domicile aux manifestations de ses soutiens dimanche dans tout le Brésil, les plus importantes depuis des mois. Dans une vidéo filmée par un tiers, on voit Jair Bolsonaro assis sur une chaise française, maillot jaune de l'équipe brésilienne et portant un bracelet électronique. Il remercie les manifestants, parle de liberté. Nous sommes ensemble, dit-il. Cette vidéo a été relayée sur les réseaux sociaux par plusieurs personnalités de son camp. Pour le juge Moraes, considéré comme son ennemi intime, Jair Bolsonaro n'a pas respecté les ordonnances qui lui sont imposées depuis juillet, dont l'interdiction de recourir aux plateformes numériques. Tout nouveau faux pas entraînera une détention provisoire, a prévenu le magistrat, visé la semaine dernière par des sanctions financières du département américain du Trésor, en représailles aux poursuites intentées contre l'ancien chef d'État brésilien qui a reçu le soutien de son ami Donald Trump.
Et Jair Bolsonaro, 70 ans, était déjà contraint depuis mi-juillet de porter un bracelet électronique et de rester chez lui le soir et le week-end. Voici une histoire digne d'un film d'espionnage. En Allemagne, deux hommes soupçonnés d'avoir joué le rôle d'espion pour la Chine sont jugés à partir d'aujourd'hui. L'un d'eux, Jian Guo, un ancien collaborateur d'un eurodéputé allemand d'extrême droite. Il a travaillé pour lui de 2019 jusqu'à son arrestation l'an dernier. Les détails de Niklas Munch.
Jian Guo a utilisé sa fonction d'assistant pour collecter des informations concernant les avis et décisions du Parlement européen. Voilà les mots du parquet fédéral allemand. Ce germano-chinois est accusé de s'être procuré plus de 500 documents, dont certains classés comme particulièrement sensibles. Il aurait aussi recueilli des informations sur les dirigeants politiques de l'AfD, le parti d'extrême droite allemand. Et enfin, il aurait espionné des opposants chinois en Allemagne. La deuxième personne également inculpée pour espionnage, c'est Yaki X. La Chinoise est soupçonnée d'avoir livré à Pékin des données sur le transport de matériel militaire, notamment des informations sensibles sur Rheinmetall. L'entreprise équipe le char de combat Léopard, livré à l'Ukraine. Selon le renseignement militaire allemand, les services russes et chinois sont très actifs sur le territoire. L'ancien chef de Jian Guo, l'ex-eurodéputé Maximilian Krah, fait lui aussi l'objet de soupçons. Il aurait perçu de l'argent de réseaux liés à la Russie et à la Chine.
Le procès doit durer 2 mois. Face à une crise mondiale de la pollution plastique, la responsabilité repose sur les États. Déclaration du diplomate équatorien qui préside en ce moment les débats à Genève, où près de 180 pays se retrouvent à partir d'aujourd'hui pour tenter d'écrire le tout premier traité mondial contre la pollution plastique. Les dernières négociations en Corée du Sud en décembre dernier s'étaient soldées par un échec. L'accord franco-britannique sur les migrants entrera finalement en vigueur dès demain. C'est le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau qui l'annonce. Son homologue britannique avait pourtant indiqué qu'il entrait en vigueur dès aujourd'hui. Cet accord prévoit le retour en France de migrants arrivés au Royaume-Uni sur des embarcations de fortune et en échange, le renvoi au Royaume-Uni de migrants se trouvant en France. J-2 avant l'instauration des nouveaux droits de douane imposés par les États-Unis sur les produits européens. Mais à 48 heures du coup près, la présidente de la Commission européenne va les repousser de 6 mois. Annonce faite ce matin par Thierry Breton, ancien commissaire européen au marché intérieur.
Ces mesures de rétorsion sont prêtes. C'est un ensemble sur 2 paquets différents d'un peu moins de 100 milliards d'euros, 96 pour être précis. Donc, ils devaient de nouveau rentrer en application et Ursula von der Leyen va décider de les repousser à nouveau pour une durée de 6 mois. Ce qui veut dire que pendant 6 mois, donc, il n'y aura pas ces mesures de rétorsion. Elles seront toujours sur la table. C'est, je dirais, l'espace de temps de nouveau de négociation qu'elle offre à la partie américaine. On re-rentre dans une phase de négociation car cet accord, on appelle ça accord, encore une fois c'est une injonction que nous recevons, n'est pas finalisé sur les contreparties dont nous parlions à l'instant. Et il va falloir aussi de voir s'il peut y avoir des exonérations. On sait que les États-Unis ont besoin de nos pièces détachées d'aviation, donc ils ont exonéré les droits de douane sur les pièces d'aviation. On sait que les États-Unis ont besoin de nos capacités à fabriquer des usines de semi-conducteurs, donc ils ont exonéré les robots qui fabriquent les semi-conducteurs. Donc il ne faut pas croire non plus que les exonérations sont faites pour nous faire des cadeaux. C'est toujours dans les deux sens parce qu'il y a un intérêt.
Thierry Breton chez nos confrères de France Info. Il porte plainte pour comprendre pourquoi autant de maisons ont brûlé 90 au total. À Marseille, près d'un mois après l'incendie qui a ravagé 750 hectares début juillet, aiguilles aux portes de la ville. Un collectif d'habitants s'est formé et des dizaines de plaintes ont été déposées. Des plaintes contre X pour demander des explications à la préfecture. Ces habitants dénoncent l'arrivée tardive des pompiers dans certaines zones et les messages d'alerte envoyés aux habitants pour leur demander de rester confinés chez eux alors que les flammes arrivaient vers leur maison. Vous vous souvenez sûrement de cette cyberattaque de l'hôpital de Corbeil-Essonnes. C'était il y a 2 ans. Tous les logiciels piratés, le personnel obligé de revenir aux feuilles et aux stylos et une rançon de 10 millions de dollars demandée par un groupe de hackers appelé Logbit. Eh bien, l'un des membres du groupe a été arrêté en Ukraine ce mois-ci. C'est une information Radio France. Selon les enquêteurs, cet homme d'une trentaine d'années a participé à plusieurs dizaines de cyberattaques. En revanche, le cerveau du groupe est toujours recherché et le FBI a promis 10 millions de dollars à celui qui aidera à l'arrêter. Là, ça ne se compte pas en millions, mais ça se compte en milliards. La fraude en France. Et pour lutter contre, eh bien, la ministre du Travail a dévoilé une partie du projet de loi visant à serrer encore plus la vis aux fraudeurs. Et ça se précise chez nos confrères des Échos. Le gouvernement cherche surtout à s'attaquer à la fraude sociale. Bonjour Valentin Grillet.
Bonjour.
La fraude sociale, c'est le type de fraude le mieux connu et on l'estime à 13 milliards d'euros.
Oui, estimation officielle du Haut Conseil du financement de la protection sociale l'année dernière. Une boussole, car la France n'en a véritablement détecté que 3 milliards en 2024 et pire, récupéré qu'un tout petit milliard. D'où les mesures arrêtées par Catherine Vautrin, la ministre du Travail, sur la fraude au chômage, des saisies pour les versements sur des comptes non européens ou une CSG à 45% sur les revenus illicites, de blanchiment ou trafic de drogue qui seront aussi déduits des indemnités chômage versé. Surtout pour le travail dissimulé qui représente la majorité des montants fraudés, l'exécutif veut geler les comptes des sociétés incriminées et faire payer les donneurs d'ordre quand c'est un sous-traitant qui fraude.
Et par contre, la fraude fiscale, elle, n'est pas bien ciblée pour le moment et pourtant, Valentin, elle est beaucoup plus lucrative.
En effet, elle représente en 2024 11 des 13 milliards d'euros recouvrés, 17 des 20 milliards détectés et pourtant, elle fait figure de parent pauvre de ce nouveau plan avec une seule mesure d'ampleur, des sanctions renforcées contre les sociétés qui organisent l'exil fiscal. Bercy défend les postes créés contre la fraude fiscale, 150 en 2024 et le recours renforcé à l'intelligence artificielle. Mais malgré les demandes répétées de la Cour des comptes, notamment depuis 2 ans, nous n'avons toujours pas d'estimation précise du montant et de la nature des fraudes fiscales. Or, rien que pour la TVA, l'INSEE donnait en 2022 des estimations robustes de 20 à 25 milliards d'euros. Mais le sujet est sensible et beaucoup plus complexe que celui de la fraude sociale. C'est donc à ce dernier que le gouvernement veut d'abord s'attaquer, quitte d'ailleurs à risquer des censures. Il veut autoriser les échanges de données entre mutuelles et caisses d'assurance maladie, un point déjà retoqué par le Conseil constitutionnel en début d'année.
Valentin Gris, service économie de France Culture. Lutter contre la fraude pour faire des économies pour le prochain budget, un budget pour lequel François Bayrou est prêt à tout. Le Premier ministre lance cet après-midi sa propre chaîne YouTube et sa propre chaîne de podcast. Le but, détailler son plan budgétaire visant à économiser 43,8 milliards d'euros d'économies pour amener le déficit public à 4,6% en 2026. Antoine Maret, bonjour.
Bonjour.
Ces nouveaux formats, ils ont un nom, ça s'appelle FB Direct.
Oui, roulement de tambour jusqu'à 17h, heure à laquelle cette première vidéo enregistrée d'une dizaine de minutes va être diffusée sur YouTube et sur les réseaux sociaux. On y verra François Bayrou évoquer le cadre général de son plan budgétaire, expliquer pourquoi et comment il faut faire des économies. Ce genre de rendez-vous devrait avoir une périodicité élastique, sans doute plusieurs fois par semaine, dit-on à Matignon, de façon énigmatique. Il pourrait aussi y avoir des podcasts avec la voix de François Bayrou, mais sans l'image donc. Lors d'un prochain numéro, le Premier ministre pourrait répondre aux questions sélectionnées des internautes. L'objectif de ces formats novateurs, c'est de profiter d'un temps mort politique, celui des vacances parlementaires, pour enjamber le Parlement et s'adresser directement aux Français qui, pour le moment, jugent très sévèrement le Premier ministre, si l'on en croit les enquêtes d'opinion. Fin juillet, selon l'IFOP, seuls 18% des Français étaient satisfaits de lui. Il s'agit donc de prendre à témoin l'opinion publique sans être embarrassé par les questions d'un journaliste avant un rendez-vous déterminant pour François Bayrou, l'examen du budget 2026 cet automne. L'enjeu est crucial pour le chef du gouvernement qui pourrait ne pas survivre à une motion de censure en cas de vote de la gauche et de l'extrême droite.
Antoine Maret, service politique de France Culture. Sur les rails, après de gros travaux cette nuit, retour à la normale enfin sur la ligne à grande vitesse entre Paris et le nord de la France. Hier, au moins 17 Eurostar et TGV étaient supprimés à cause d'une panne électrique et jusqu'à 5 heures de retard pour certains passagers. Et puis pour terminer ce journal, un mot pour vous parler de la météo de cet après-midi. Du soleil pour quasiment toute la France, quelques nuages dans le quart sud-ouest, côté température 20, 22 degrés près de la Manche, 24 à 28 plus au sud, sur le littoral atlantique, 30 à 34 dans le sud-ouest et il va faire jusqu'à 38 degrés en basse vallée du Rhône. C'est la fin de ce journal. Il a été réalisé par Julien Loquet, à la technique Alexandre Dang.